Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonna Bolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient feuilleton. Cette semaine, on rediffuse « Des animaux et des hommes chez le vétérinaire », un documentaire d'Olivier Chomel et Yvon Croisier. Au départ de cette série, il y a des compagnonnages qui sont comme des images d'Épinal. L'attelage de bœufs dociles et leurs bouviers au milieu des champs, le cheval et son cavalier sous les frondaisons, le chasseur à plat ventre et son terrier à l'affût, ou le berger marcheur et son chien vigilant. Mais il y a aussi des histoires de couples, de ces couples étranges et fidèles que l'on forme avec son vieux perroquet déplumé, son chien qui pue, son chat acariâtre, son lapin craintif, sa chèvre retorse ou son hérisson apprivoisé, mais méfiant. Et puis les efforts partagés, les liens de dépendance et de la curiosité pour l'ingéniosité des animaux. Et enfin, cette inquiétude terrible de voir son animal tomber malade et mourir. Alors pour commencer, les personnages. Un vétérinaire fier de son cabinet, une autre dévouée à ses patients, une dame inquiète pour son chien, une autre qui ne peut vivre sans son chat, un amoureux des chatons, un documentariste qui aime les animaux, Sheraton, Arthur et un chat bizarre qui adore se laisser faire. Ensuite, le décor. Une salle d'attente, des salles de radiologie, le syndrome de la mère Michel, des preuves d'amour, des grognements et pas mal de solitude. Aujourd'hui, deuxième épisode, attention aux chiens de Rhodésie à crête dorsale.
Clinique vétérinaire, alors bonjour.
Chez le vétérinaire, entre l'homme et l'animal. Olivier Chomel, Yvon Croisier.
Qu'est-ce que vous voulez ?
Du genre
des petits biscuits.
Voilà.
Comment va-t-il ?
Très très bien. Très très bien.
Les vacances étaient bonnes ?
Très bien, dans le midi.
Ouais.
C'est un Rhodesian Ridgeback, qui veut dire en fait arête dorsale de Rhodésie. Enfin, donc, c'est un chien du Zimbabwe actuel. Voilà. Et tout le monde, quand les propriétaires de chiens en général voient l'arête dorsale, ils sont tous effrayés parce qu'ils pensent que c'est un signe de la colère du chien. Ils pensent qu'il a le poil hérissé, donc tout le monde part hurlant en général. Enfin, c'est pas facile d'avoir un gros chien à
Paris. Alors que c'est un amour.
C'est un amour. L'autre jour, une dame, j'étais à 10 mètres, elle s'est mise à hurler. Je lui dis, madame, tenez-vous quand même. Ah oui, non, mais les gens, en plus, c'est vrai qu'on vit dans une époque où on parle de sécurité à tout prix, enfin bref. Donc, dès qu'on voit un chien, les concierges vous disent, s'il vous plaît, faites attention que votre chien ne pisse pas sur mon mur ou sur ma poubelle d'avance. Alors j'ai dit, attendez au moins qu'il ait pissé avant de faire des remarques.
Biscuits à quoi ? Poulet, agneau, saumon ?
N'importe quoi, c'est pour...
On va lui donner poulet.
En général, il mange les croquettes de poulet, mais enfin, je ne pense pas qu'il soit obsédé à ce point. Bah, c'est juste...
Le chien aura mangé ça dans combien de temps ?
Au moins 2 mois. Vous savez, je lui donne un de temps en temps.
C'est des friandises.
Oui, c'est en fait, j'en mets un dans sa nourriture pour qu'il mange ses croquettes, parce qu'il n'aime pas trop les croquettes. En fait, ils veulent en général, ils prennent l'habitude de vouloir manger ce que vous mangez. Mais ils se demandent pourquoi ils mangent des croquettes et pas comme vous. Parce qu'au fond, ils partagent votre vie et ils se disent, s'ils partagent tout de la vie, pourquoi ils ne partageraient pas la nourriture ? Voilà. Après tout, ils partagent le même appartement, les mêmes... Enfin, lui, il partage le même canapé, le même lit, enfin bref, tout ce qu'il paraît, il ne faut pas faire, mais moi, je ne crois pas trop à ce genre de choses. Quand j'entends des fois des vétérinaires comportementalistes dire qu'un chien doit rester par terre parce que s'il est sur un fauteuil, il se prend pour le maître. Personnellement, j'y crois pas. parce que mon chien ne se prend pas pour le maître, même s'il est dans le canapé ou sur le lit. Donc je pense que c'est comme avec les enfants. Si vous leur dites que c'est vous le maître, que c'est vous qui avez l'argent, ils ne se prennent pas pour le maître.
Une des questions que je me pose, c'est pourquoi les gens vivent-ils avec des animaux ?
Je pense que pourquoi il n'y a pas de raison. Hein. Je n'ai pas de raison particulière. Bon, je ne pense pas qu'il y ait les mémés à chien et tout ça. Moi, je n'y crois pas trop. Moi aussi, on m'a traité une fois de pépère à chien. Un vieux monsieur à chien, certainement très seul, isolé dans la société, que je n'avais que mon chien. Fait des idées, c'est des lieux comment terribles, tout ça, parce que c'est pas vrai. Et puis je vous dirais, une fois, quand j'habitais dans le 7e, et j'avais une voisine qui était une femme, même de la famille royale de France, elle m'a dit qu'elle trouvait plus satisfaction avec son chien qu'avec ses enfants. Alors, après, je pense que ça veut rien dire. Les gens disent ça peut-être aussi. Un jour où ils sont déçus de leurs enfants, parce que je pense qu'on peut être déçu par ses enfants, hein, comme on peut être déçu par tous les gens qu'on connaît.
Ça sert à rien.
Peut-être, oui.
Là, c'est juste de la compagnie.
Pour moi, oui. Oui, j'ai pas de chien parce que j'ai besoin qu'on me garde, non.
Clinique vétérinaire, alors bonjour.
Pour éloigner les rongeurs, chasser et surveiller le logis qu'on a domestiqué le chat et le chien. Depuis, les relations entre les humains et les vertébrés domestiques se sont grandement sophistiquées, davantage sans doute que les relations entre les humains. Il était très rare au début du néolithique que Felis silvestris catus regarde la télévision sur les genoux de mamie et que Canis lupus familiaris porte des manteaux de laine ou court après un faux lièvre devant des Britanniques en délire. Nous nous intéressons aux bêtes de compagnie et à leurs maîtres en ville, plus précisément à Paris et dans sa proche banlieue. Et nous avons surtout affaire à des chats et des chiens. On parle beaucoup des nacs, nouveaux animaux de compagnie, qui sont censés différer du chien et du chat. Ils ne sont pas si nouveaux que ça, les nacs. Colette a vécu au milieu de ses nombreux chats avec Batou, une once du Tchad, félin redoutable. André Gide a eu un singe nommé Dindiki, et Francis de Miomandre a élevé Séti, le caméléon. Miomandre écrit ceci en 1938. C'est à cette époque que l'idée m'est venue de classer l'humanité en deux espèces nettement antagonistes, d'un côté ceux qui aiment le caméléon, de l'autre ceux qui n'y comprennent rien. Caméléon, python réticulé, rat, perroquet gris du Gabon, chat et chien sont des vertébrés, ni plus ni moins. La fréquentation de ces êtres a de multiples raisons et vertus, parmi lesquels la possibilité de ne plus réfléchir ni penser, ce qui normalement n'est accessible qu'aux débiles profonds, à certains toxicomanes et aux très grands esprits.
Bon. On fait comme ça, je vous donne le vermifuge et on se revoit dans une semaine pour son antipuce. Et donc au mois d'octobre, on lui fera à la fois le vermifuge et le vaccin. Voilà. On va passer devant.
Vous faites visiter votre clinique, Michael Silbert.
On y va. Là, vous avez une première partie pour les animaux hospitalisés qui nécessitent des soins réguliers dans la journée. On a un contact visuel en permanence et comme ça, s'il y a le moins de soucis, on peut intervenir tout de suite.
Il y a qui ?
Vous avez des chats parachutistes, c'est-à-dire du chat qui tombe par la fenêtre. Celui-là du 5e étage, il s'en sort avec quelques fractures, quelques contusions, mais il va très bien. aux animaux souffrant de réactions allergiques après un vaccin, donc les chocs anaphylactiques, un chat en bas avec une lipidose hépatique, un problème de foie, donc c'est vraiment très varié. Alors on descend là où les animaux ne veulent pas aller, c'est le bloc. Et vous avez aussi tous les animaux qui vont se faire opérer ou qui se sont fait opérer, qui restent là en surveillance. Des soins de plaies sur un animal qui est tombé encore, donc c'est assez varié. On pratique les détartrages, comme chez l'homme, avec les mêmes ustensiles, sur cette table. Et nous opérons dans cette salle, qu'on appelle un bloc.
Sur une table en inox.
Sur une table en inox, avec tout le monitoring qu'il faut pendant la chirurgie, à savoir le monitoring anesthésique, surveillance respiratoire, cardiaque, électrocardiogramme, pression artérielle.
La médecine vétérinaire rejoint la médecine humaine,
voilà,
beaucoup.
Avec quelques années de retard, on s'équipe de plus en plus et on s'équipe souvent avec du matériel de médecine humaine. Salle d'écho. La salle où je me fais le plaisir, puisque c'est mon domaine, l'échographie abdominale. De plus en plus, on passe les animaux en échographie. De plus en plus. De plus en plus, les gens sont demandeurs. L'endoscopie, on va s'équiper en endoscopie aussi pour faire des fibros. Vous avez des centres d'imagerie où ils font que des scanners ou des IRM pour les animaux. Ça se spécialise énormément. On essaye d'élargir vraiment notre domaine de compétences. On fait de l'ophtalmo aussi. On a des outils assez intéressants pour regarder, pour faire les fonds d'œil des animaux.
Vous n'allez pas faire porter des lunettes à un chien?
Alors, vous ne faites pas porter de lunettes à un chien, mais vous posez des lentilles. Vous opérez de la cataracte, vous remplacez le cristallin par une lentille d'un même... C'est très difficile d'évaluer la vue d'un chien. On a certains moyens, mais très souvent, d'après différentes études, on sait quelles corrections à apporter à un chien qu'on opère de la cataracte, par exemple. On va lui placer une lentille avec la même correction pour tous les chiens. On ne fait pas de laser, on ne soigne pas la myopie, évidemment, mais on fait pas mal de choses. Mais ça suit de très près la médecine humaine. On retrouve les mêmes maladies que chez l'homme, beaucoup d'anthropomorphisme. Souvent, le propriétaire a les mêmes maladies que son animal. Les animaux, les chats diabétiques en surpoids, propriétaire en surpoids. Les animaux souffrant de stress ou d'anxiété parce que son propriétaire souffre des mêmes pathologies. Et on a souvent une transmission directe du propriétaire à l'animal.
Vous avez une théorie là-dessus, Michael Silbert?
Non, aucune théorie particulière. C'est que l'animal ressent toutes les émotions de son propriétaire. Et beaucoup plus de complicité, beaucoup plus d'échanges. L'animal vraiment prend une place à part entière dans la famille, ce qui fait qu'il capte toutes les émotions des différentes personnes dans la maison. Et ça finit par le faire souffrir de la même manière qu'un humain. Il va manger les mêmes choses que ses propriétaires, il va subir tous les changements d'humeur de ses propriétaires. Et ça va le perturber aussi. Les voyages, de plus en plus, les gens voyagent avec leur animal.
Il faudrait pas ?
Si, mais c'est une source de stress supplémentaire à chaque voyage. Alors, on développe des médicaments anxiolytiques pour les animaux qui voyagent. Ça devient de plus en plus... intéressant.
Maintenant, ce qu'on aimerait savoir, c'est la nature de ce qu'on lui a enlevé, bien évidemment. Viens ici, viens.
Allez,
c'est parti au laboratoire.
Ça a été enlevé lundi. Oui, on n'aura pas encore le résultat. C'était une masse qui se situait dans la...
Il a sa mâchoire... D'accord. De ce côté-ci.
Oui, non, mais c'est il super a... joli. Hein.
C'est... Ah, oh, c'est très rassurant. Parce que c'était pas beau. C'était... Ça avait l'aspect d'une fraise. Vous voyez,
d'accord,
avec des petits...
une excroissance.
Ah, oui, elle était quand même assez importante. D'accord. Nous avions même peur qu'il se morde lui-même, cette excroissance.
Et...
Oui, oui, oui.
D'accord. Est-ce que vous avez noté des saignements au niveau
non.
de sa gamelle?
Non.
Dans son
eau? Non, 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 ça se passe bien.
Il est aussi bas ou pas?
Non,
et
ça
là,
se
il
passe.
Il mange correctement, il a faim, il est en forme.
Il a même très faim.
Bon.
Sheraton a 14 ans.
D'accord.
Ah oui, oui, oui.
Bon, pour faire pipi, ça va, il n'a pas trop de soucis?
Non.
Non.
Non. Ouais. Sheraton.
Bon, mais il a une prostate un tout petit peu grosse. Ça, il faudra juste vérifier.
Oui, oui. Sheraton prend du xylorique depuis qu'il est tout petit, un demi-caché.
Parce qu'il est
parce quand il a eu 2 ans, on l'a opéré, vraiment, c'était comme une olive. Quand j'ai vu ça, l'échographie, j'ai pas voulu croire que c'était aussi important. Et depuis, il prend ce demi-xylorique et mange de la viande blanche.
D'accord.
Uniquement de la viande blanche.
D'accord.
Poulet, dinde, et puis le soir, quelques granulés. Enfin, c'est pas un grand mangeur, Sheraton. D'ailleurs, ça se voit, il n'est pas...
Il est assez fin, ouais.
Oui, 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 oui.
Bon, en tout cas...
D'accord.
C'est
Est-ce que nous partons sur le Maroc mercredi prochain? Non, on aurait bien... Oh, oui, oui.
Du coup, on a fait ce contrôle-là, donc ça ne va pas se réouvrir maintenant.
Bon, ce sont des bonnes nouvelles. Oh là là, qu'est-ce que j'aime entendre ce genre de choses. On part à la campagne, alors, maintenant.
Voilà, vous
fort rassuré pour le moment.
C'est
voilà.
En tout cas bien cicatrisé.
Merci, merci beaucoup.
Voilà, madame.
Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Quelquefois, vous devez être tenté de poser des questions aux animaux eux-mêmes et regretter qu'ils ne s'expliquent pas eux-mêmes.
On a un petit peu le même problème que les pédiatres, je pense. On aimerait qu'ils nous disent là où ça fait mal, mais ça marche pas, ça marche pas. C'est ce qui fait toute la difficulté de notre métier. Mais vraiment, analyser ce que le propriétaire dit est aussi important que d'examiner l'animal. On trouve toutes les informations qu'il faut dans le discours avec le propriétaire. Et ça nous guide vers le diagnostic. Parfois, on aimerait que l'animal parle, oui, plutôt que le propriétaire. Mais on écoute tout le monde.
Et il pourrait y avoir quelque chose comme de l'hypochondrie par procuration.
Ah oui, mais ça, c'est... On s'en rend compte tous les jours. On s'en rend compte tous les jours. Très souvent, oui, oui, un propriétaire hypochondriaque a l'impression que son animal souffre de tous les maux. Et souvent, d'ailleurs, le propriétaire nous ramène tout à soi-même. C'est-à-dire que... Il va nous dire, j'ai l'impression que... moi, j'ai ça, il a pareil que moi... Donc il faut vraiment analyser non pas seulement l'animal mais le propriétaire qui va avec. Et souvent on fait un travail de groupe. On soigne les deux.
Claire Beauvais. On est dans les Hauts-de-Seine, tout près de Paris.
Oui.
Vous pouvez tenter de faire une petite sociologie de votre clientèle, sociologie humaine et animale.
La population a beaucoup évolué en 10 ans, puisqu'on est dans une commune limitrophe de Paris, et le foncier étant extrêmement cher à Paris, pas mal de familles ont traversé le périphérique pour venir jusqu'ici.
Et ça se retrouve dans la population des animaux qui viennent vous voir?
Pas forcément dans la population. Alors si, on a plus d'animaux à la mode, on va dire, hein, des races de chiens à la mode. Alors c'était aussi le cas il y a 10 ans, c'est-à-dire que il y a 10 ans, le chien à la mode, c'était le pitbull. Et puis donc la population ayant changé, on a les chiens à la mode maintenant, c'est plutôt le chihuahua ou bien le bulldog français ou... Par contre, le niveau de médicalisation a changé. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, on avait l'impression que les gens venaient plus quand le cas était plus ou moins désespéré. Maintenant, on est plus dans la prévention et dans la bobologie éventuellement, hein, c'est-à-dire la consultation pour pas grand-chose, comme vous avez pu en voir, avec une petite plaie qui n'est pas très très grave. Ça peut inquiéter parce que c'est inhabituel, mais c'est pas quelque chose de très grave.
Ça gagatise un peu.
Ça peut gagatiser, oui. Ça peut gagatiser.
C'est assez drôle à voir, d'ailleurs.
Oui. Oui, enfin, c'est drôle, ou parfois... oui. C'est drôle, oui, pour vous, parce que vous avez un regard extérieur. Ça peut friser le ridicule, mais...
Bon, moi, ça, il peut,
ça, oui, ça fait partie du métier. Et puis, moi, quand je suis avec mes animaux, je peux gagatiser aussi. Donc, je ne jette pas la pierre.
Et votre, chez vous,
à titre personnel, oui. Ouais. Ça peut m'arriver même avec un animal hospitalisé. Hein, donc, les gens ne le savent pas toujours. Oui, ça peut arriver, oui.
Bon, c'est bon? On peut y aller? Je ne peux pas te laisser là indéfiniment, mon chou. Bon, c'est bon, le chouchou? C'est bon, mon chou? Non, mais vous voyez, il est bien là. Tranquille.
Si vous bougez pas, vous...
Non, mais je crois que je vais bouger parce que j'ai chaud aussi.
Qu'est-ce que vous lui avez acheté?
Là, c'est pour mes chats. J'ai des croquettes spéciales pour mon chat qui a du sable dans ses urines. Ouais, et ça fait plus de 10 ans qu'il a ce traitement. Et je lui donne que ça à manger et ça se passe très bien. Parce qu'il ne pouvait plus faire pipi, donc on m'avait montré d'abord la doctoresse m'avait montré comment il fallait faire pour l'aider à faire pipi. Donc massage de sa vessie et le passer sous l'eau, et puis avec le contact de l'eau, il faisait pipi, et après il saignait un petit peu, mais après ça revient tout normal. À partir du moment qu'il mange autre chose que ça, s'il mange d'autres croquettes, il est malade.
Ouais. À la nourriture, ouais. Et qui favorise...
Mais ça, tout ça, c'est venu à la suite d'une chute du 4e étage. Il a été paralysé du train arrière et... il avait quoi? Il avait 3-4 ans quand il est paralysé. Et maintenant, il a 14 ans. Hein. Mais je prends toujours la même alimentation et ça lui réussit très, très bien. C'est pour ça que je ne change pas et j'achète toujours les mêmes croquettes, quoi, parce que dès que je change d'alimentation, si un jour j'ai pas assez d'argent, je prends moins cher. Mais c'est vrai que déjà d'une... Ils sont mauvais au niveau des matières, les excréments.
Avec les autres
nourritures, ouais. Ouais. Ils sentent vraiment fort, tandis que là, non, vraiment, c'était bien d'avoir trouvé la bonne nourriture qu'il fallait, quoi.
Ouais.
Et même pour lui, quand je lui achète chez d'autres marques, c'est pas bien, quoi.
Mais ça ne s'achète que chez le vétérinaire.
Ah oui, vous ne le trouvez pas autre part que chez le vétérinaire. En grande surface ou même dans une animalerie, vous n'en trouvez pas. C'est spécial vétérinaire. Oui. Voilà, je vous ai... j'ai fait ma petite leçon, c'est bien.
Voilà.
Merci beaucoup. Ça y est, t'as fini? Tu viens boire? Tu dis au revoir à tout le monde? Au revoir, messieurs, dames.
Revoir,
et puis merci pour l'eau, hein. Parce que là, il faut qu'on y aille. Allez, viens. Oui, je sais, c'est des croquettes, mais c'est pas pour toi, t'es encore trop jeune. Toi, c'est encore en bébé. Allez, viens. Au revoir.
Là, vous avez ce qu'on appelle une magnifique cage à contention. Alors, ça fait un petit peu barbare comme ça, mais c'est très utile. Oui, c'est une cage grillagée en inox. Alors, tous les vétérinaires ont ça. Je sais pas si vous avez jamais déjà vu ça. Très utile. Vous introduisez un chat agressif dans cette magnifique cage que vous refermez par le dessus. Et puis là, ce chariot, ces deux poignées vous permettent de tirer ça vers vous afin de coincer le chat le plus possible, hein, dans ce petit enclos. Vous fermez.
Et là, la bête ne bouge plus.
Et là, la bête ne peut absolument pas bouger. Et ça vous permet de lui faire une piqûre d'anesthésique pour pouvoir ensuite, évidemment, l'examiner ou travailler dessus. Mais c'est très pratique dans ces cas-là. Vous avez le petit tiroir en dessous pour récupérer Évidemment, les selles ou les urines du chat qui se sent contraint et qui finit toujours par uriner de stress ou faire ses selles. Donc voilà, on tire le petit chariot. Tout est prévu. On a toute une sorte comme ça, toute une panoplie d'ustensiles destinés aux chats agressifs. Les boucliers, les gants qui remontent jusqu'aux épaules. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir les manipuler.
On a l'impression que vous craignez plus les chats que les chiens.
Bien sûr. Parce qu'un chat... un chat vous laisse aucune chance. Vous avez des chats qui réellement font peur. Poussent des cris que vous n'avez jamais entendus de votre vie. C'est vraiment des hurlements. On voit leur origine féline dans ces moments-là. Donc on a, bien sûr, on craint davantage le chat, de très très loin.
Elle est terrorisée, elle en tremble, la pauvre.
En plus, elle était trop bien, ça m'a embêtée de la prendre.
Ah oui, mais c'est l'heure de la sieste, là.
Oui, voilà, c'est ça.
Pourquoi vous faites ça?
Alors, je suis en train de couper les poils autour de la région anale, parce que les poils forment des bourres qui peuvent aller obstruer l'anus. Il suffit qu'il y ait une selle un peu molle qui se colle aux poils pour que l'anus soit obstrué et qu'il y ait des soucis qui passent inaperçus pendant quelques temps jusqu'au moment où l'animal ne peut plus du tout faire de selle et commence à être en moins bonne forme, on va dire. Donc moi, je recommande en général de couper régulièrement les poils dans cette zone. Sinon, même sur le plan urinaire, on peut avoir des infections avec des poils qui sont en permanence souillés par de l'urine. On peut avoir des infections urinaires ascendantes après. C'est un beau métier, hein.
Moi, je suis sidérée de ce que vous arrivez à faire d'un chat comme
ça. Ouais, bah oui, ça c'est issu de longues années d'expérience.
Je vous crois sur parole. C'est...
Ouais.
Faut y aller franchement, quoi, c'est ça?
Ah, mais il faut être ferme. Il faut, c'est une main de fer dans un grand velours. C'est ça. C'est comme je disais, c'est il faut faire sentir au chat que l'on est là, que l'on le contraint dans son mouvement, enfin qu'on le limite dans son mouvement, justement, sans vraiment le contraindre. C'est-à-dire que le simple fait de poser ma main sur son dos fait que ça va inhiber le mouvement. Elle va sentir qu'il ne faut pas qu'elle bouge. Je suis là pour la retenir. Hein, c'est, voilà. Ça vous paraît extraordinaire, mais ça vient naturellement avec l'expérience, avec les années.
Puis elle aime bien se faire brosser aussi.
C'est vrai?
Oui, dès qu'elle va à la brosse, elle vient toute folle. Elle roule et tout.
Ah bon?
Ouais.
C'est pas toujours le cas, ça.
Par contre, dès qu'elle voit les ciseaux...
Elle a peut-être eu un petit coup...
Non,
intempestif, c'est... non, c'est jamais arrivé.
C'est qu'elle sait qu'elle va être tournée dans tous les sens et ça lui plaît pas.
Ouais. Voilà. Voilà, donc on nettoie ses yeux avec une petite compresse imprégnée d'un liquide nettoyant. Elle se laisse bien faire, elle est mignonne. Elle a l'habitude d'être manipulée. On va juste regarder les griffes, là, c'est tout. Ouais,
parce que il faut que je refasse aussi.
Oui, mais je vais les couper, on va en profiter. Séance de manucure.
À votre avis, est-ce qu'elle sait où elle est et ce qu'elle vient faire?
Oui.
Ouais.
Oui. Je pense. Je pense. Je ne sais pas s'ils ont une grande mémoire, mais je pense qu'ils doivent savoir, je pense. Moi, je m'en souviens de mes chats, tout ça, dès qu'il y en arrivait au vétérinaire. Po. La queue entre les jambes, tout. Donc, ils ont peur. Même si ça leur fait du bien, ils ont peur. Si on va les tripoter, on va les tourner dans tous les sens, tout. Puis les animaux, c'est quand même assez... ça aime bien, surtout les chats, hein, ça aime bien être peinard. un chat, c'est fait pour tranquille. Hein. Quand ça a envie de caresser, ça vient. Quand ça n'a pas envie, ça se planque, ça dort. Quand ça a envie de câlin, ça vient.
Et on n'en fait pas ce qu'on veut. Hein.
Ah, un chat, non, jamais. Jamais. Mais c'est des bêtes, moi je dis toujours, c'est des bêtes à bonheur et des bêtes à chagrin. C'est des bêtes à bonheur et des bêtes à chagrin. Parce que quand ils nous partent, quand ils partent, on est mal. Hein. J'en ai perdu des animaux, à chaque fois je me disais je reprends pas. Et puis 6 mois après je recommence.
C'est rigolo un petit chat.
Ah ouais, ouais, c'est super, c'est marrant à voir vivre. C'est super rigolo, c'est curieux de tout. Curieux et peureux en même temps. C'est curieux de tout, ça saute partout. Puis alors, quand ça s'écroule, quand c'est fatigué, ça s'écroule d'un coup et vous pouvez le secouer, des fois, il dort bien. Enfin, c'est bon.
Elle sort ?
Non, 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 je suis en appartement. Non, non. On ne l'a pas encore emmenée en vacances parce que je la laisse à mes enfants, mais un de ces quatre, on l'emmènera en vacances. Mais c'est pas pareil un chat quand vous le. Les chats ils aiment bien être chez eux. C'est leur. Ils aiment bien leur confort être chez eux. Les déplacer c'est.
C'est pas facile.
C'est pas facile. Puis il faut voir s'ils supportent la voiture ou des trucs comme ça. Hein. Parce que moi ma première chatte elle supportait pas la voiture. Donc. Faut voir ça. Mon enfant l'emmènera en vacances. C'est sûr.
En fait,
Hugues Journeau, vétérinaire.
Les gens, ils ont un besoin fondamental de s'occuper des autres. Ça, c'est typique de l'espèce humaine, même si on dit que notre société est très individualiste. On a besoin de s'occuper des autres. Et il faut avouer que les chiens et les chats, quand on s'occupe d'eux, ils nous le rendent bien. Et donc, c'est un plaisir, tout simplement. Alors, il y en a qui, peut-être, poussent ce comportement à outrance. Mais bon, c'est pareil, où est la normalité ? On ne sait jamais, hein. Donc, penser à son chien, lui préparer à manger, l'emmener faire une balade, s'extasier de le voir courir, ou alors jouer avec son chat, construire un arbre à chat chez soi, le brosser, le toucher, vérifier qu'il va bien, ça procure du plaisir. Hein, et peut-être que c'est peut-être un substitut pour certaines personnes, mais juste un complément pour la majorité, j'imagine. Parce que, comme il n'y a pas de. On ne peut pas dire qu'il y a de méchanceté hein, chez le chat et le chien. En général, ils acceptent ça avec vraiment du plaisir. Et ça fait plaisir de donner plaisir à d'autres êtres vivants. Je crois que c'est juste une caractéristique fondamentale de l'être humain. Et peut-être que certaines personnes ont du mal à s'occuper des autres humains et s'occupent plus des bêtes. Clinique vétérinaire, bonjour.
L'animal, vraiment, a une place à part entière. C'est une personne dans la maison.
Michael Silbert, vétérinaire.
Donc, de plus en plus de problèmes d'éducation. De plus en plus de troubles psychologiques parce que l'animal ne reste pas à sa place d'animal. On l'élève un petit peu trop au rang d'humain, ce qui crée beaucoup de problèmes. Et ce qui fait aussi la joie des comportementalistes et des éducateurs. Mais vous avez une demande incroyable parce que l'animal n'a plus du tout la place qu'il avait dans la maison. En fait, il faut. Si vous vouliez avoir un panel complet, dans une il faut rester la journée. Parce que vous allez voir. Vous allez voir passer 30 ou 40 personnes complètement différentes les unes des autres. Du propriétaire de chat au propriétaire de chihuahua, ce qu'on surnomme les chiens de bras.
Chiens de bras.
Alors ça, c'est un nouveau phénomène de mode. Le chien que vous ne transportez que dans les bras. Ou dans un sac. Vous en avez en photo, là, regardez. Avec des nouvelles tenues. Donc ça, c'est...
une de nos clientes qui développe une... Ah, vous en avez beaucoup maintenant, mais une ligne de une ligne de vêtements pour Chihuahua. Donc c'est un vrai objet de mode. Il faut l'habiller, il faut lui mettre des petites boucles d'oreilles, lui vernir les ongles.
Sans jugement de valeur, ça peut confiner au ridicule quand même.
J'ai du mal à répondre à cette question. Chacun jugera ça de la manière qu'il le veut. Pour nous, c'est une habitude. On nous demande des choses parfois complètement invraisemblables. Ça fait partie de notre métier, mais ça va très loin, hein, parfois. Limite fétichisme. Au moment de la mort d'un animal, par exemple. On nous demande de plus en plus de choses incroyables.
C'est-à-dire ?
Et ce qu'on nous demande de plus en plus, c'est de couper une mèche de poils et de les mettre dans une enveloppe. De raser une partie des poils. Les gens veulent conserver ça. Et on nous le demande. Ce qui fait que maintenant, on le propose. On anticipe.
C'est assez touchant. Ça n'a rien de pathologique, ça.
Non, pathologique, non. Mais il y a quand même un côté... Ça n'existait pas. Voilà, c'est fétiche. On veut garder un objet, on le fétiche, on va l'exposer. Enfin, ça n'existait pas. Ça, on ne demandait jamais ça. On nous demande de retirer des dents. Les gens veulent garder les canines. Enfin, ça n'existait pas avant. Plus de 30% des incinérations que nous pratiquons, enfin que nous sous-traitons, sont des incinérations individuelles. C'est-à-dire que les gens payent une société d'incinération pour un service particulier d'incinération où l'animal est incinéré tout seul. Les gens peuvent assister à l'incinération et récupèrent les cendres dans une urne personnalisée. Ça se développe de plus en plus. Preuve que l'animal tient une place vraiment prépondérante. Et bien souvent, d'ailleurs, les propriétaires reprennent l'animal très peu de temps après. Très peu de temps après.
Le cimetière des chiens et chats d'Anières existe depuis fort longtemps. Mm-hmm. Donc cet attachement un peu démesuré à l'animal de compagnie, il n'est pas totalement nouveau.
En ce qui concerne le cimetière, non, mais c'est quelque chose de classique. Vous perdez un animal, la première chose à laquelle vous pensez, c'est de l'enterrer. Alors plutôt que de le faire dans votre jardin, si vous n'avez pas de jardin, le cimetière a toujours existé, c'est vrai que c'est plus pratique. Là, on rentre vraiment dans les choses plus spécifiques. L'incinération individuelle, récupération des cendres, c'est quelque chose qui dépasse l'enterrement classique. C'était pas aussi développé que ça avant, ça n'existait même pas d'ailleurs. Par exemple... une dame qui n'a pas eu d'enfant et qui n'a eu qu'un chien dans sa vie, le chien c'est toute sa vie, a un attachement extrêmement marqué. Si le chien a 15-16 ans et que vous annoncez une tumeur incurable et une espérance de vie de quelques semaines, vous avez des situations parfois qui tournent à l'hystérie. Hein. Les gens deviennent hystériques, hurlent, pleurent, enfin... juste à l'annonce de la maladie, hein. Ou pendant qu'on fait une échographie. Si on annonce qu'il y a des nodules ou des choses comme ça dans un organe, ben vous avez des gens qui tombent dans les pommes, ça va vraiment très très loin. Donc de plus en plus, on apprend à adapter nos propos à la personne qu'on a en face. Et souvent, on nous demande comment est-ce qu'on va faire. Docteur, comment est-ce qu'on va l'annoncer à nos enfants ? Ça va être un déchirement. Vous avez la personne âgée qui a perdu son mari, qui n'a plus rien, qui n'a que son chien, qu'elle sort tous les jours. Vous lui retirez ça. Tout s'effondre.
On laissez-le dans son sac tant qu'il arrive, parce qu'il ne veut pas sortir de là. Il a tellement peur, le pauvre.
Qu'est-ce que vous amenez, madame?
Un petit chat siamois qui a un cancer. Oh. Alors, c'est l'horreur. Parce que je ne sais jamais si ça va être pour dans 3-4 jours ou dans un an. Ou dans... Et c'est affreux, parce qu'il y a des jours où j'ai l'impression que tout marche bien, puis d'autres jours, c'est la catastrophe. Il y a des jours où j'ai l'impression qu'il souffre et d'autres, j'ai l'impression qu'il va très bien. Donc, avant de prendre une décision grave, aujourd'hui, on va faire des examens plus importants pour voir un petit peu où ça en est. Et si je peux avoir un peu de répit ou s'il faut... Bon, voilà. C'est...
Quel âge a-t-il ?
6 ans. Il vient d'avoir 6 ans. Il est très jeune pour avoir un cancer. Mais c'est comme chez les humains. Et justement, ça va plus vite chez les petits, paraît-il, que chez les plus vieux.
Un peu comme nous, hein ?
C'est comme nous. C'est comme nous. Et les manifestations sont les mêmes. On mange plus, on maigrit, on fond. C'est pas... Non, il y a des moments, je venais... Parce que ici, c'est formidable. On sent qu'ils aiment les animaux, que c'est pas seulement une routine. J'ai même dit, si on avait des médecins qui s'occupent autant des malades que les vétérinaires le font des animaux, ce serait formidable.
Ils n'aiment pas trop venir chez le vétérinaire.
Ils détestent, mais c'est pour ça que ça le stresse aussi. Et là, je suis venue avant-hier parce que ça n'allait pas du tout. Alors, on lui a fait je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais c'est quelque chose qui a réussi. Il allait mieux, mais il m'a dit qu'il faut faire un contrôle aujourd'hui.
Et qu'est-ce que c'est sa maladie alors ?
Un cancer du côlon. Et qui n'est pas opérable. Alors, c'est sûr que sa mort est programmée. Hein. Alors, je sais bien qu'il y a des choses... De temps en temps, je me dis, on va me prendre pour la mère Michel, je vais embêter tout le monde avec mon chat, mais les gens qui n'ont jamais vécu avec un animal ne peuvent pas savoir ce que ça représente. Mais hier, c'était... je ne sais plus dans quelle émission, on a fait venir Depardieu pour parler de la mort de Chabrol. C'est hier ou avant-hier. Vous ne l'avez pas entendu ? Bon. Et quand Depardieu a dit que la mort de Chabrol lui rappelait la mort de son chat, j'ai senti que tout le monde trouvait que c'était absolument scandaleux d'avoir dit ça. Et le lendemain, il s'est fait épingler par Guy Carlier, qui a dit son cerveau est imbibé d'alcool, il ne sait plus ce qu'il dit. Bon, et ben, c'est parce qu'il simplement il n'a pas compris ce qu'il a voulu dire. Parce que c'est ça, il a expliqué. Un chat, c'est quelqu'un qui est tellement... On a un chagrin fou parce que, en plus, quand on a vécu avec un chat, c'est quelqu'un qui vous emmerde pas. Sous-entendu, comme Chabrol. C'était ça ce qu'il voulait dire, la comparaison du chat, la mort du chat et la mort. C'était un hommage de comparer. Quand il a dit le chat, c'est pour faire voir que c'est Chabrol ou Cabrol, d'ailleurs. Chabrol. Que Chabrol, c'était un chat parce qu'il vous emmerde jamais. Voilà. Et j'avais trouvé... Et c'est vrai que les gens qui n'ont pas d'animaux, bon, on ne peut pas leur dire qu'on a du chagrin pour un chat, parce que moi, je m'entends dire tout le temps, ça n'est qu'un chat. Bon, et alors, on peut pas, je ne sais pas comment il faut être fichu pour se dire, c'est qu'un chat, on pique, on s'en va, parce que j'ai des tas de conseils comme ça, de gens qui me disent, ben, fais-le piquer, puis t'en prends un autre. Alors, je trouve que c'est pas un bouquet de fleurs qu'on jette, hein, c'est pas ça.
Et comment sait-on qu'il souffre ?
Ah, parce que, vous savez, surtout les chiamois, ils parlent, on dit que les chiamois parlent, et il y a des sons. Et là, quand il se met il ne miaule plus, il crie de douleur. Ça, je sais que là, je dis, là, il souffre. Et puis, à d'autres moments, c'est simplement qu'il est très là, qu'il est très mal, et c'est des gémissements. C'est comme ça. Alors, bon. Et puis, à d'autres moments, hop, c'est extraordinaire, hein. Il reprend vie, il est content d'être dans son appartement, il est content d'être avec moi, et puis la vie est repartie. Seulement c'est des sauts de puce et c'est très dur, surtout que moi je suis plus toute jeune. Hein. Alors on se remet, et puis je suis toute seule. Alors c'est vrai que c'est mon petit compagnon aussi, hein, depuis si longtemps. Depuis 6 ans, depuis la mort de mon mari, il vit avec moi le jour, la nuit, et il m'a apporté beaucoup, beaucoup. Puis c'est un chat en plus qui est... Bon, spécialement celui-là, il est spécialement gentil. Les vétérinaires me le disent, les gens qui le voient, c'est un pot de crème, il est délicieux. Je disais même, quitte à faire hurler certains, c'est moins embêtant qu'un bébé. Et je dis, parce que le bébé, c'est formidable, mais c'est très embêtant. Les couches à changer, les trucs, ils sont tout de suite propres. Ils sont tout de suite délicats. Ils bougent sans rien déplacer. Ils sont extraordinaires. Il n'y a pas d'être humain qui soit comme ça. Et puis, ils vous aiment d'une façon absolue, quoi.
Quelles sont les preuves de cet amour?
Oh, c'est sa tendresse avec moi. Il est tout le temps, dès qu'on est à la maison, hop, il vient, il se met là. Quand j'écris, il se met sur mon bureau à côté. Quand je vais faire ailleurs, il me suit comme un petit chien dans la maison. Ah non, ça, les preuves, j'en ai tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Comment s'appelle-t-il ?
Arthur. Là.
Mon premier chat s'appelait Arthur.
Ah bon ? Ah, vous aimez les chats alors, vous aussi ? Ah d'accord, voilà. Alors c'est pour ça que vous m'avez écouté longtemps. Autrement, les autres, on les barbe avec nos états d'âme, voilà. Oh, mais on serait intarissable sur la vie d'un chat. Moi, il m'a aidé à la mort de mon mari. Et ce qui est terrible, c'est que c'est vrai qu'il est mort. Mon mari est mort d'un cancer aussi. Et là, alors moi, je vais faire comme Depardieu. C'est vrai que c'est les symptômes qui sont les mêmes. La lassitude, la vie qui fiche le qui s'en va. Mais jusqu'au dernier moment, puisque mon mari s'est arrêté de travailler 15 jours avant sa mort. Il avait 78 ans. Alors. Et lui, je sens que jusqu'au bout, il va aimer ce qu'il me... C'est ça aussi son amour, c'est de me manifester qu'il est heureux avec moi et dans son... Et je le vois bien, là. Ben, là, il n'est pas fier, parce qu'il attend qu'on va... Il sait qu'on va le tripoter dans tous les sens, qu'on va ouvrir là... Puis qu'on va lui faire des piqûres et qu'on va lui faire des... Oh, le pauvre. Enfin...
Vous pensez qu'il a plus ou moins conscience de...
Ah oui.
La dangerosité de sa situation.
Tout à fait. Si, parce qu'il y a des moments où il se planque devant moi quand il a vraiment très mal, et puis il me regarde les yeux dans les yeux, mais il a un regard. Je ne sais pas tout ce qu'il me raconte avec ses yeux. C'est ces deux petites billes bleues là qui c'est extraordinaire.
C'est beau, les yeux d'un siamois.
Ah oui, c'est magnifique, c'est magnifique. Oh, puis ils expriment tellement de choses. Bah, écoutez, je crois que je vais arrêter parce que là, je serai.
Vous pouvez continuer.
Non, on va attendre le résultat. Je serai peut-être moins diserte quand il aura passé son examen. Je sais pas ce qu'on va m'annoncer. Mais jusqu'à présent, l'important, c'est que, bon, à part si, des moments où il a mal, il a envie de vivre. Alors donc, je suis incapable de dire, allez, il faut le piquer, parce que, non, c'est pas pour mon confort à moi que je le ferai piquer, c'est pour que, quand lui, il n'en pourra plus. Et puis surtout, je veux pas qu'il souffre. C'est tout. Alors, pas d'acharnement, mais tant qu'on peut lui donner la vie, il n'y a rien de plus important que la vie. Alors, je trouve que là, je ne vais pas décider d'abréger la sienne, s'il a envie de vivre. Bon, mais je dis jusqu'au bout, c'est pour ça que ça me fait réfléchir aussi sur l'euthanasie, quand on décide pour les autres qu'il faut les abréger. Je ne sais pas. D'ailleurs, les gens qui ont des certitudes sur tout, sur Dieu, sur pas Dieu, sur ce qu'il faut faire, alors je dis ils ont de la veine, parce que je suis incapable d'avoir des certitudes pareilles.
Qu'est-ce qu'on va lui faire à Arthur ?
Là, on va lui faire un examen pour savoir où en est son cancer déjà. Et puis on va lui faire, ce qu'elle a dit, elle va lui faire un antibiotique pour qu'il ne souffre pas. Ça, voilà. Parce que la chimio le fiche par terre. Chaque fois qu'il prend, la chimio, c'est des petites pilules qu'on lui fait avaler. Et ça, on est pendant 3-4 jours, il ne mange plus rien, il ne veut plus rien savoir, il est complètement prostré. C'est l'horreur, la chimio. Alors on a décidé d'espacer les séances qu'on lui en donne. Mais en même temps, si on arrête la chimio, c'est le cancer qui prend le dessus. Mais la chimio, le malheur, c'est que ça tue les mauvaises cellules, mais ça tue aussi les bonnes. Alors c'est la guerre dans son petit corps là, qui se passe à ce moment, savoir lesquels vont gagner. Bon. Arthur, hein, mon petit chat, t'as pas peur, hein, t'as pas peur.
Porte quand on a un chat dans une salle.
Donc celui-là, il ne sauvera pas.
Non, il n'ira pas très loin, ce qui est très gentil. Contrairement à celle que j'ai bien de voir.
Ah oui, c'est ça.
Qui m'a bien griffé. Alors là, Madame Clou, il a 3,470 kg.
Comme la dernière fois.
Donc c'est bien.
Il n'a pas bougé. Mais la dernière fois, c'était avant-hier.
Donc là, en fait, quand il va faire ses selles...
Il a mal.
Il a mal, toujours.
Là, je ne peux plus en douter. Hein. Au début, je croyais qu'il criait normalement. Mais là, c'est vraiment... Surtout, il y a des moments, c'est vraiment des hurlements.
Mais moins ce matin.
Moins ce matin.
Et il n'y a plus de sang...
Il n'y a plus de sang du tout. Et les selles sont très belles.
Alors, tiens, Sébastien, tu vas me tenir devant, s'il te plaît. On va le mettre sur le dos. Voilà.
Bon. C'est bien, Arthur, n'aie pas peur.
Vous allez le raser, là ?
Un tout petit peu, oui. Je fais vraiment mini, mini, mini.
Oh, mais je sais que vous faites, c'est vous qui le faites faire, tout ça.
Disons que sans tondre, malheureusement, on ne voit pas grand-chose, hein, à l'échographie. Voilà. Donc là, on est en train de vérifier, en fait, la paroi de son côlon. Alors, par échographie, au départ, on n'avait pas vraiment de signe. C'est pour ça qu'on a décidé de faire une endoscopie, exactement comme on aurait fait pour un homme. Hein. Donc, on a une paroi de 1,7 mm. Là, c'est un tout petit peu épaissi. Enfin, c'est discret, vraiment. Ce qui nous a permis de faire le diagnostic, c'était vraiment l'analyse histologique sur lui. Je vérifie également ses reins. Alors, l'échographie chez l'animal, ça permet vraiment de... On voit bien, très très bien les organes.
Okay. Arthur, c'est pas ce que tu
dis. Arthur, il nous donne des coups de patte. Alors, vous allez tenir les pattes un petit peu mieux. Et hop, on essaie de le mettre.
Il est tout de même très docile. Hein.
Oui,
oh,
oui.
C'est un chat délicieux, mais vraiment...
Donc, ça n'a pas l'air de progresser. Donc, non, moi, pour le moment, sur Arthur, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de décision à prendre. Non, s'il n'avait pas son traitement, il est certain que ça évoluerait beaucoup plus vite. Mais avec ce traitement-là, quand même, j'ai bien espoir qu'on puisse le garder. J'aimerais au-delà de 2 ans.
Oh, que ça me ferait du bien. Mmh. Et puis,
j'ai envie, sa présence, et pour moi, c'est irremplaçable. Ouais, c'est un petit chat délicieux, quoi. Mais en plus, je voulais, comme je pense bien sûr à ça aussi, ça, je me dis, oui. Le dernier jour, j'aurais pas le courage de l'amener, moi. Vous pourrez venir au moins pour la première piqûre, la faire chez moi, parce que vous dites qu'il y en a deux.
Je peux le faire entièrement chez vous, hein.
Oh,
il n'y a pas de souci.
Pour lui.
Parce que veux dire que la dernière, de venir ici, ça le stresse. Oui. Déjà, si quand le moment sera venu et puis que je le sentirai, et vous aussi, ben, j'aimerais que ce soit à la maison. Parce que...
De toute façon, voilà, moi, il est clair et net que jamais je vous dirai, allez, on continue, si je sens que c'est plus la peine, là, on prendra la décision. Mais là, enfin, actuellement, non.
Il y a deux choses, d'ailleurs, savoir que ce n'était pas encore le moment, et puis quand le moment viendrait, je ne recommencerai pas à venir ici avec son sac et puis laisser le sac ici.
Je ne serai pas
capable.
Je viendrai à la maison, ça c'est sûr. Et voilà, mais j'espère que ça sera évidemment le plus tard possible. Là, actuellement, c'est pas du tout d'actualité. Il est hors de question de prendre ce genre de décision. Donc,
en tout cas, vous êtes un médecin et pas tant pour mon chat. Et je redis ce que j'ai dit au docteur Sigbert hier. Si on avait des médecins qui s'occupent de nous comme vous vous occupez des animaux, eh bien, ce serait formidable.
Ça vous coûte combien, les visites d'Arthur ?
C'est très irrégulier, mais quand il y a des examens, comme ça coûte, il me coûte très cher hein, quand même. Si je faisais le total, je ne le fais pas. Le total depuis les différents... Ce sont les examens l'endoscopie, celui-là d'aujourd'hui, le truc. Mais autrement, le traitement, non, ils sont gentils parce qu'on me fait un traitement suivi, donc je paye les visites moins cher que quand on y vient une fois de temps en temps. Là, puisque je viens toutes les semaines, on voit une infirmière pour lui faire sa chimie mieux à la maison pour pas le stresser, mais je dois compter quand même 300 ou 400 euros par mois.
Et voilà.
Et merci. Et voilà, Arthur, c'est fini, mon petit chat.
Bon, non, vraiment, l'échographie, c'est stable, en fait.
C'est stable, ça
n'a pas du tout bougé, donc...
Chez le vétérinaire, entre l'homme et l'animal. Merci à Claire Beauvais, Nathalie Pratt, Isabelle Pasquet, Michael Silbert et Hugues Journeau, vétérinaire. Merci à Yvonne Clos, Evelyne Cougoula, Philippe Lemonnier, Margot Pradine, Sevro Radaeli et à Arthur, Sheraton et Lily. Bibliographie et liens sur franceculture.com. Attaché de production Christine Gage et Laure-Hélène Planchet. Prise de son, Lidwin Caron et Fuong Tran Mai. Sur les docks, Yvon Croisier, Olivier Chaumel.
LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Et si vous voulez prendre rendez-vous, bibliographie, lien, nous podcaster pour le chat ou nous réécouter avec Médor, eh bien, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook à la page France Culture Documentaire et nous suivre sur Twitter LSD Série Doc. Et pour toujours plus de documentaires, allez faire un tour sur le site de Tank, notre partenaire, qui propose par abonnement une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Demain, troisième épisode, quand un adolescent aveugle rencontre un chien guide.